Notre invitée aujourd'hui, elle s'appelle Sylvie Matelli. Bonjour.
Bonjour.
Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris. Avec vous, on va aborder un sujet de fond à l'occasion de ce samedi qui marque la fin de la période pendant laquelle les candidats au poste de directeur général du FMI pour remplacer Christine Lagarde en partance pour la BCE pouvaient se faire connaître. On va évoquer les grandes questions qui ont trait au fonctionnement de cette institution. Vous le savez sans doute, le Fonds Monétaire International, c'est un héritage légué par la Seconde Guerre mondiale. Il est né à Bretton Woods en 1945. Alors, Sylvie Matelli, pour succéder à Christine Lagarde, le FMI n'a reçu qu'une seule candidature, celle d'une Bulgare, Kristalina Georgieva. C'est en quelque sorte le fruit d'un arrangement tacite entre Américains et Européens, une tradition qui perdure et qui veut que le fonds soit dirigé par un Européen et la Banque mondiale par un Américain. Elle n'est pas un peu dépassée, Sylvie Matelli, cette répartition des postes au sein des institutions de Bretton Woods?
Alors, elle est probablement dépassée, mais en tout cas, elle est très contestée par les pays émergents qui, sur les précédentes élections, dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, par exemple, ou dans le cas de l'élection de Christine Lagarde, avaient systématiquement menacé de présenter des candidats. Et d'ailleurs, on se souvient que, à l'époque, Dominique Strauss-Kahn était allé faire un tour des capitales des pays émergents. Il était en particulier, ça avait beaucoup amusé la presse à l'époque, il était en particulier allé voir Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez avait mobilisé tout un groupe de dirigeants de pays du Sud pour s'opposer à une nouvelle nomination d'un directeur européen. Et puis, il avait réussi à convaincre en expliquant qu'il allait réformer le Fonds monétaire international et qu'il allait donner plus de poids aux pays émergents, un poids qu'il mérite, puisque les pays émergents, par définition, sont devenus des acteurs émergents sur les marchés mondiaux et dans les relations internationales, et qu'il est tout à fait scandaleux qu'ils ne disposent pas de plus de pouvoir au sein du Fonds monétaire international. Pour vous donner juste un exemple, la Chine, qui représente aujourd'hui autour de 17% du PIB mondial, a un droit de vote qui s'apparente à 4 ou 5%, les réformes engagées par Dominique Strauss-Kahn en particulier, mais qui ont été poursuivies par les successeurs, n'ont jamais abouti, parce qu'il y a un certain nombre de blocages, dont des blocages d'ailleurs européens. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette seule candidature, que les pays émergents n'aient pas proposé un candidat alternatif. Est-ce qu'ils n'y croient plus? Est-ce qu'ils pensent que tout ça est fini? Ou est-ce que, pour eux, ça signifie que le Fonds monétaire international, un rôle marginal sur les marchés internationaux.
Effectivement, quelles sont les explications qu'on peut trouver à cette absence de candidats de pays émergents?
Alors, probablement, la première explication, c'est le fait qu'ils n'y croient plus. La réforme au Fonds monétaire international patine depuis des années, elle n'avance pas, elle n'est pas prête d'avancer, il y a de tels différends entre les pays qu'on ne voit pas très bien qu'elle va en être d'issue, donc ils se disent que ça bouge pas, ça ne sert à rien. Il y a peut-être aussi l'impression que le rôle du Fonds monétaire international se marginalise et que de nouvelles organisations, type G20, ou des rendez-vous de groupes de pays ont plus d'efficacité et prennent des décisions plus impactantes et plus déterminantes que ce que peut faire le Fonds monétaire international. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'au-delà des décisions qui sont prises au sein du Fonds monétaire international, il y a toute la partie accompagnement des pays en difficulté qui est quelque chose qui reste extrêmement important. On l'a vu ces jours-ci avec l'Argentine, qui a demandé au Fonds monétaire international de la soutenir dans les difficultés économique et financière qu'elle traverse.
Sylvie Matelli, est-ce que c'est pas parce que aussi les BRICS misent sur d'autres institutions qu'ils ont eux-mêmes créées, je pense par exemple à la New Development Bank qui a vu le jour à l'initiative de la Chine, je crois, pour contrer entre autres le FMI. Elle devient quoi cette institution?
Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs institutions qui ont été créées par la Chine, dont la Banque d'investissement dans les infrastructures, la Banque pour le développement. Alors, elles avancent, elles continuent à avancer simplement ou à se développer, simplement et à fédérer des membres. La Chine est aujourd'hui en difficulté économique et donc se focalise plutôt sur les intérêts de son économie que sur son expansion à l'international. Elle est très contestée sur les routes de la soie en particulier. Donc, c'est vrai que il y a moins d'affichage de ces alternatives qu'il y a quelques années, et on voit une Chine qui est beaucoup plus prudente dans ses initiatives à l'international, même si encore une fois, ces organisations et ces banques existent, continuent à fonctionner, sont dotées de moyens qui pourraient être plus importants, en tout cas qui sont bien en deçà de ce qui avait été annoncé au départ, mais sont dotées de réels moyens et sont de vraies concurrentes du Fonds monétaire international.
À part la New Development Bank, il y a eu d'autres initiatives de ce type qui ont été prises par le Brésil, l'Inde, la Russie, d'autres pays peut-être?
Alors, on peut penser à le Banco del Sur qui avait été imaginé par le président Chavez au Venezuela il y a quelques années, qui j'ai pas d'informations très précises sur le sujet, mais qui a pas donné grand chose. On peut penser à la banque d'investissement sur les infrastructures qui avait été créée en 2015 par la Chine, soutenue par les Européens, aux grandes dames des Japonais et des Américains qui étaient contre cette initiative et qui visait à financer des projets d'infrastructures, en particulier autour des routes de la soie. Ça, c'est une institution qui continue à fonctionner et qui investit, encore une fois, moins que prévu initialement. Il y a moins d'argent dans les caisses en Chine ces derniers mois ou ces dernières années. Il y a plus de contestation aussi de cet impérialisme chinois, puisque c'est interprété par certains pays comme ça, mais ça continue à avancer. Et puis, on peut très bien imaginer que l'Afrique prendra ce type d'initiative autour des projets de création de monnaie commune. Donc, on voit que l'alternative et les voies qui sont suivies à la difficulté de réformer et de faire évoluer le Fonds monétaire international, c'est la création d'institutions alternatives.
Mais ça veut donc dire que la gouvernance de l'économie mondiale, ça intéresse quand même les pays émergents.
Ça les intéresse au premier chef parce qu'ils ont véritablement besoin que cette gouvernance évolue et prenne plus en compte leurs intérêts. Et puis après, il y a de nouveaux défis ou il y a des défis qui sont aujourd'hui les inégalités, le changement, la lutte contre le changement climatique, qui mobilisent pas forcément totalement et de manière totalement adaptée aux intérêts des pays émergents, les pays occidentaux et les pays du Nord, et le Fonds monétaire international, alors un petit peu moins la Banque mondiale qui est sur des projets et qui est beaucoup plus sur ces nouveaux défis entre guillemets, mais c'est vrai que les pays émergents, les pays du Sud ont aussi envie de prendre la main sur un certain nombre de dossiers et de défis à relever et donc investissent dans des institutions alternatives.
Merci beaucoup Sylvie Matelli d'avoir répondu à nos questions à la mi-journée sur RFI. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice adjointe de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.